Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola, en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 10, Sundance, un film et son histoire.
Dominée par les montagnes rocheuses, Salt Lake City n'est pas qu'une ville de mormons. C'est aussi, au mois de janvier, le cœur battant du cinéma indépendant. Chaque année, le festival de Sundance récompense les meilleures productions hors système. Loin des tenues de soirée d'Hollywood, acteurs et réalisateurs se rendent aux séances en parka et échangent aisément avec les spectateurs. En janvier 2011, les lumières d'une salle de cinéma s'éteignent. Sur l'écran blanc, on projette le film Senna de Asif Kapadia et Manish Pandey. Pierre Van Vliet, vous avez collaboré avec les auteurs du film Senna. Comment est-il né ?
Alors, c'est une longue histoire parce qu'il y a eu des projets très vite après la mort d'Ayrton, parce que le destin d'Ayrton Senna était tel que ça ne pouvait qu'inspirer évidemment les scénaristes à Hollywood et ailleurs. Et c'est forcément les grands studios qui ont d'abord essayé de monter le projet. Et bon, je vous dis, à l'époque, j'étais assez proche de la famille et via la fondation. J'avais un peu la confiance, disons, de Viviane notamment. Et donc, quand il y a eu des propositions de Hollywood avec un film de fiction, mais qui devait raconter la vie d'Ayrton, avec Antonio Banderas dans le rôle principal. Or, il avait quand même un physique et des capacités d'acteur pour incarner Senna. Mais bon, le conseil de famille a toujours refusé, le père en particulier, parce que les contrats ne permettaient pas d'avoir un vrai contrôle, une vraie garantie sur le contenu et sur le storyboard. Et donc voilà, il y a eu deux ou trois projets comme ça qui ont été rejetés par la famille. Et donc le temps a passé. Et donc au bout d'une dizaine d'années, bon ben, c'était moins bankable à Hollywood, je suppose. Et finalement, il y avait que des passionnés ou que les vrais fans de course automobile qui pouvaient imaginer de faire un film, ou en tout cas de rendre hommage à Senna à travers un film. Et c'est Manish Pandey, donc un scénariste anglais, enfin d'origine indienne, mais qui travaille à Londres dans la principale boîte de production de cinéma en Angleterre, c'est Working Titles. Et Manish un jour m'a appelé, enfin non, Viviane m'a appelé d'abord en disant « Tiens, on a reçu une proposition pour faire un film, mais pas vraiment un film, plutôt pas un documentaire, enfin un biopic, quoi, une vraie biographie filmée d'Ayrton, mais sans acteur, sans voilà, c'est des archives, c'est un espèce de gigantesque documentaire. Enfin bon, toi tu connais ça, tu sais ce que c'est. J'aimerais bien que tu ailles voir. Et donc j'ai pris un Eurostar et j'ai été à Londres rencontrer Manish Pandey et le producteur. Et j'ai été charmé par Manish Pandey, vraiment, qui est un type formidable et qui est un vrai passionné. Il est médecin, en plus, et pratique encore la médecine, mais son boulot, c'est scénariste de films et il participe à des grands films anglais ou américains. Mais fan de F1 et fan de Senna à un point énorme. Et donc, moi, j'ai simplement dit à Viviane, écoute, je pense qu'ils sont sincères et je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose de bien. Maintenant, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'en archive, rien qu'en archive, comment est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un documentaire qui a déjà été fait en télé, par ailleurs? Et donc, bon, là, c'est eux qui ont monté le dossier. Manish, étant un professionnel de l'écriture cinématographique, a fait comprendre que c'était pas vraiment une biographie de Senna, c'était une histoire, celle de Senna, mais qu'il fallait raconter l'histoire. Asif Kapadia, le réalisateur, qui est un grand réalisateur anglais, également d'origine indienne, mais qui a gagné beaucoup de prix au cinéma, s'est emparé de cette histoire et ils ont travaillé ensemble. Et bon, moi j'ai été un peu l'œil de Moscou, enfin l'œil de Sao Paulo plutôt, sur ce projet. Donc j'ai, pendant deux ans et demi, j'ai régulièrement, je suis passé sous la Manche pour aller travailler avec Manish sur le montage, l'assemblage, le dérechage surtout du film, parce qu'il y avait énormément de choses à raconter. On a eu accès à toutes les archives de la FOCA, de Bernie Ecclestone, FOCA TV, qui est basée à Biggin Hill, au sud-est de Londres, près de Brandsach, là, dans un ancien aéroport militaire. Il y a des hangars gigantesques où Bernie a ses avions, sa collection de voitures, etc. Mais aussi des rangements par centaines et par milliers de cassettes et d'archives vidéo, de toutes les télés accréditées sur la F1, tous les rushs, pas ce qu'ils diffusent, tout ce qu'ils tournent. Est stocké, archivé par FOCA TV, FOM maintenant, à Biggin Hill. Donc, comme Bernie a eu la générosité de dire à la Fondation « Ok, accès total aux archives, payé à la minute selon le tarif en vigueur, mais tout l'argent qu'il allait facturer au producteur du film serait reversé à la Fondation Sénat. » Donc, Ecclestone n'a pas pris une livre sterling sur cette affaire, et au contraire, c'est la Fondation qui a bénéficié des archives, de la valeur des archives. Et évidemment, c'était extraordinaire d'avoir accès à tout ça, mais c'était trop. Et voilà, je me souviens qu'on a fait un premier montage, un pré-montage, on était à 3h30, les producteurs se sont arrachés les cheveux en disant non, parce qu'ils voulaient vraiment que le film aille en salle, ils voulaient en faire un vrai film grand public, et pas un documentaire obscur. Donc il fallait faire en gros 1h30, 100 minutes max. Et ça a été voilà très difficile et parfois à regret de devoir couper des séquences entières et c'était mine d'or à laquelle on avait accès. Et puis il y a la manière de raconter l'histoire. Moi j'ai appris un métier parce que ça n'a rien à voir avec la télé. Ce film a vraiment été pensé comme un vrai film de cinéma et le talent de Manish et de Azif en ont fait ce qu'il est et ce qui rend vraiment, je crois, la personnalité d'Ayrton, le contexte de l'époque. Alors certains ont pu dire que c'est forcément un film à la dévotion d'Ayrton, à l'œuvre d'Ayrton, et que c'est plutôt à charge de Prost et à des charges de Sénat. Donc il y a ce déséquilibre, hein, on ne peut pas le nier, mais il n'est pas volontaire. C'est-à-dire que, voilà, un peu par la force des choses, le film raconte l'histoire de Sénat. Et Alain a cette espèce de lucidité horrible de dire, ben oui, il y en a un qui est mort, l'autre pas. Donc forcément, il y a un héros chevaleresque qui a disparu, et donc dans le cœur des gens ou dans le regard des autres. Voilà, son histoire prend une autre dimension, une autre forme, un autre lieu. Bon, moi j'ai interviewé Alain pour le film et je regrette un peu que voilà qu'il y ait un peu de malentendu ou que ça a été un petit peu déséquilibré dans la fin du scénario. Et moi j'avais pas le contrôle, quoi. Voilà, il y a eu notamment le fameux message de Ayrton à Alain à Imola qui est pas dans le film parce qu'on n'avait pas assez d'images. Pour soutenir, pour raconter la dernière rencontre de Prost et Sénat. Il n'y avait pas d'image. Donc moi, j'étais là, parce que j'étais physiquement là, Alain, dans le motorhome Williams, et puis dans le garage, après, ils se sont parlé, quoi, longuement. Mais on avait zéro image. Et Alain, Azif, le réal, était formel. Il dit, une histoire, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'histoire. Et donc voilà, il préférait alors l'interview de Viviane, par exemple, qui raconte le coup de téléphone du dimanche matin à Imola, plutôt que le message d'Alain Ayrton, enfin d'Ayrton à Alain. Alors c'est vrai que nous, on le connaît bien parce que c'était fin. Et que, voilà, ailleurs, ce message est relativement anecdotique ou est relativement passé inaperçu. Mais il avait une forte valeur symbolique quand même.
Justement, ce message, comment a-t-il été enregistré ?
Ben, on enregistrait toujours le samedi matin, les premiers tours, le tour d'installation en fait, il faisait deux tours, aux essais libres du samedi matin. Et c'était un deal entre Renault Elf et Williams pour TF1. Et donc le pilote de pointe Williams décrivait un tour en caméra embarquée avec la radio à bord. Donc ça a été Nigel Mansell en 92, ça a été Alain en 93, et Ayrton a joué le jeu aussi en 94. Et donc le samedi matin, ben, on va, après la séance d'essai, on va chez Williams récupérer les images et le son, voilà, et on revient faire le montage dans le cas régie de TF1. C'est Yves Géniès qui s'occupait de ça, je me souviens. Et à un moment, il vient me chercher en me disant, écoute, il y a un truc, je comprends pas très bien. On est d'accord, hein, on démarre le tour au passage de la ligne, hein, parce qu'avant, avant de démarrer le tour, il dit un drôle de truc, il parle de Monsieur Alain, je ne comprends pas bien tout. Alors c'est en anglais, bon, c'était Ayrton. Mais en fait, il disait I miss you. C'était pas Monsieur Alain, c'était I miss you, we miss you, parce qu'il il corrige le tir. Enfin bref, mais il exprime en fait le manque, l'absence, le fait qu'Alain lui manquait et qu'Alain nous manquait à tous, et que la F1 sans Alain, pour lui, n'avait plus de sel, quoi. Donc c'est assez émouvant, évidemment, avec le recul, quand on sait que, voilà, qu'il est plus là et qu'il se sentait perdu sans son alter ego, qui était aussi Alain le seul qui pouvait comprendre ce qui lui arrivait, quoi. Et d'ailleurs, depuis le début de la saison 94, ben, ils se parlaient souvent en téléphone, et le seul qui pouvait entendre ce que disait Ayrton et comprendre que effectivement la voiture n'était pas aussi efficace qu'on l'imaginait, et qu'effectivement le team Williams n'était vraiment pas accueillant et chaleureux comme pouvait l'être McLaren avant, ben, le mieux placé forcément c'était Alain. Et Ayrton et Alain se sont beaucoup parlé en février, mars. Ils me l'ont dit tous les deux sans savoir que, etc. Donc... Et quand Alain arrive le dimanche matin à Imola, on n'avait pas passé encore ce message, parce qu'on voulait d'abord qu'Alain l'écoute. Donc on ne l'a pas mis dans Automoto, parce qu'Alain est arrivé dans la matinée, en cours d'émission, je crois, Automoto. Et donc après Automoto, on se fait un petit briefing et on montre les images et on fait entendre le message à Alain. Et Alain était vraiment bouleversé. Et Alain s'est dit... Oh, il est mal, quoi. Il est vraiment pas bien. Alors bon, il y avait tout le contexte, hein. Mais ça venait du samedi matin, avant l'accident de Ratzenberger, même. Et puis voilà. Donc Alain, on prend le tunnel, on passe en dessous, on rejoint le paddock, on va chez... Il y avait Williams, Renault, il y avait les deux motorhomes. On déjeune chez Renault, mais Alain, il y a Williams... Enfin, Ayrton sort du motorhome Williams, fait signe à Alain, et Alain va le rejoindre, et ils ont passé... voilà, 15-20 minutes dans le motorhome à discuter. Alors, bon, Alain n'a jamais précisément expliqué ce qui s'était dit, si ce n'est en gros que, voilà, Ayrton parlait de sécurité, du GPDA, il fallait qu'Alain reprenne du service et qu'il vienne défendre, prendre la tête du mouvement parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça, etc., etc. Il y a une grande réunion à Monaco, le GPDA, etc., etc. Et donc Alain, oui, était d'accord de se mobiliser pour ça. Mais Ayrton était très insistant. Et après, Alain, avant le départ, est allé dans le garage, au moment où Ayrton s'est installé dans la voiture. Et ils ont encore parlé là, quand il mettait son casque et qu'il partait, comme on le sait, à contre-cœur. Il partait au combat, le dernier.
Dernière question, Pierre Van Vliet. Si vous pensez à Ayrton Senna, quelle image vous revient ?
Alors, c'est un peu personnel. Il se fait que, grâce à Ayrton et à sa famille, j'ai un fils adoptif brésilien qui s'appelle Milton, comme le père. Parce qu'Ayrton, c'était un peu lourd à porter, donc on a préféré l'appeler Milton, parce que Milton, c'est, voilà, c'est un prénom qui est aussi anglo-saxon, donc il passe partout. Alors c'est devenu Miltinho, c'est-à-dire le petit Milton en portugais, puisque le grand Milton, senior Milton, c'est naturellement le papa d'Ayrton. Mais du coup, moi, j'avais un Senna à la maison. J'ai pensé à Senna tous les jours, parce que tous les matins... Il y avait Senna au petit déjeuner. Alors maintenant, Senna a grandi, vous imaginez. Hein, il fait 1m80, il est barbu, il boit de la bière, il est costaud. Mais il est formidable. Et voilà, moi j'ai ce rapport personnel, disons. J'ai l'image de Senna et le cadeau, la générosité d'Ayrton qui nous avait orienté vers sa maman, Donna Nene, qui s'occupait d'un orphelinat à Sao Paulo, pour nous permettre d'adopter. Et voilà, c'est personnellement très touchant, et c'est un cadeau du ciel.
Merci Pierre Van Vliet pour votre témoignage. À bientôt.
Dans les pas d'Ayrton Senna, une série proposée par Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau.